J'aime beaucoup les contraires, effectivement.
Si on a une benne goubard, on a une benne verte. Et si la benne est verte, c'est une benne goubard. En tout cas, ça nous permet mieux de connaître.
Merci. Certaines questions étaient très difficiles.
Bienvenue dans Marqueur, l'heure de la marque.
Notre monde est marque. Marque sur les vêtements, marque sur les volants, marque sur notre téléphone, marque sur les bennes également d'ailleurs. Marque partout. Mais quel est le rôle exact de la marque dans le développement de nos entreprises? Et qui, au sein de l'entreprise, tient ce rôle de développement, de cohérence, de justesse dans le temps de la marque? Qui sont-ils? Que font-ils? Bienvenue dans Marqueur, le podcast qui met en lumière les travailleurs de la marque. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jérémy Bourdillon de la société Goubard, une entreprise familiale qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements de manutention sur mesure pour les industriels. Ingénieur, puis responsable de bureau d'études, Jérémy est entré chez Goubard en qualité de directeur technique. En 2021, toujours chez Goubard, Jérémy devient un jeune dirigeant, passionné et engagé, qui aime partager les valeurs de qualité, de proximité et de réactivité de son entreprise. D'un naturel positif, il cherche continuellement à apporter une vision durable et innovante à ses projets. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ?
Bonjour Anthony, bonjour à tous. Merci pour cette belle présentation qui met bien en valeur Goubard et mon parcours.
Je suis ravi de t'avoir, mais déjà en préambule, ce que je voulais dire, c'est que on fait une petite entorse, parce que finalement, Marqueur à l'origine, c'était plutôt des personnes qui ont pour poste uniquement, ou en tout cas à grande majorité, le travail de rayonnement de la marque et de développement de la stratégie de communication et marketing. Toi, en l'occurrence, tu n'es pas directeur communication de Goubard, mais tu es dirigeant de Goubard.
C'est ça. Je suis le dirigeant de Goubard. Goubard, aujourd'hui, c'est 70 personnes. Et en tant que dirigeant, pour moi, on est la première personne qui doit incarner la marque. Je suis aujourd'hui un jeune dirigeant de 34 ans d'une entreprise qui a cette année 85 ans d'existence. Et je dois, en tant que dirigeant, porter cet héritage et toute cette identité qu'est la marque Goubard. L'incarner, vraiment incarner ce pourquoi et Goubard aujourd'hui, à qui cette entreprise s'adresse, quand les personnes que j'ai autour de moi en communication vont surtout s'orienter sur le comment aider les commerciaux et créer des médias, des moyens pour justement faire rayonner cette marque.
Donc pour toi, c'est essentiel et ça fait partie, on va dire, quasiment de ta fiche de poste, si on pouvait dire qu'il y avait une fiche de poste en tant que dirigeant.
Oui, tout à fait. Sur la fiche de poste, la marque est importante. L'identité même de l'entreprise s'appelle Goubard aujourd'hui. Goubard est une marque connue, reconnue. Je dois la développer. J'ai à cœur d'ailleurs, depuis la reprise de l'entreprise, de redynamiser cette marque. Goubard n'est pas un vieillard de 85 ans. Goubard doit être dynamique, doit être jeune, innovante comme marque, et c'est principalement, ça fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, stratégie que je porte et que j'incarne aujourd'hui.
Très bien. Et alors, est-ce que tu pourrais nous partager ta définition de la marque? Qu'est-ce qu'elle est? Comment on diffère une marque d'une entreprise, par exemple?
L'entreprise, le nom de l'entreprise, c'est sa raison sociale, c'est purement juridique. Ce n'est pas une marque. Une marque va plus loin. Pour moi, la marque, c'est vraiment le dénominateur commun de tout ce qu'incarne l'entreprise. C'est donc ce qu'on dit souvent, ses valeurs, ses salariés, ses produits, mais aussi ses clients. On parle de nos clients comme des ambassadeurs de notre marque. Moi, en tant que concepteur de solutions industrielles et donc fabricant de produits, ça passe nécessairement par mes produits, mais pas que, par aussi toutes les personnes qui gravitent autour et aussi par le contexte dans lequel on évolue. On fabrique des bennes pour le tri des déchets. On a évidemment aussi cette valeur écologique qui est très forte et qu'on essaie de développer autour de notre marque et par extension sur l'entreprise.
Donc Jérémy, je vous propose, c'est un rituel sur ce podcast et dans tous les épisodes, d'apprendre à mieux nous connaître, mais de sortir du studio un court instant pour aller dans un café, un bar à côté, pour notre rubrique « Questions de comptoir ». Le principe est simple, des questions courtes, et je te demande en retour, bien sûr, des réponses courtes.
Ok.
Alors, Tesla ou Volvo ?
Tesla.
LinkedIn ou Instagram ?
LinkedIn.
Acoustique ou électrique ?
Électrique.
David Bowie ou Depeche Mode ?
Depeche Mode.
Couleur vive ou couleur pastel ?
Couleur vive.
Merci Jérémy d'avoir joué le jeu. On va revenir maintenant plus sérieusement au travail de la marque. En tout cas, ça nous permet mieux de connaître.
Merci. Certaines questions étaient très difficiles.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle du binôme marque et réussite. Et la question, elle est très simple, celle que je vais te poser, c'est est-ce qu'il est possible de réussir un projet entrepreneurial, de réussir en tant que dirigeant sans marque ?
C'est à mon sens possible, c'est plus difficile. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi la marque c'est le dénominateur commun, le résumé de tout ce que porte l'entreprise, comme valeur, comme client, comme produit, comme proposition de valeur aussi, vraiment ce qui fait l'entreprise. Avoir une marque facilite la démarche de l'entreprise, dans le sens où en termes de communication, on peut facilement résumer tout ce que propose l'entreprise sur une marque, sur un logo, sur un thème sonore. La communication est facilitée par cette marque. C'est comme ça que je le vois et c'est ce qui aide aujourd'hui Goobar à vite se différencier de ses concurrents. On n'a pas besoin de raconter l'histoire de Goobar de 85 ans. On n'a pas besoin de raconter qu'on a 700 produits catalogues et d'énumérer tous ces produits. En une phrase, une marque, on transmet ce qu'est Goobar. Donc à mon sens, c'est plus facile avec une marque que sans marque, même si ça doit quand même être possible sans marque. Une entreprise peut vivre sans marque, mais c'est quand même beaucoup plus simple en termes de communication, on va dire, en termes d'efficacité. On est dans un monde qui va très vite aujourd'hui, on a besoin d'efficacité, de rapidité. La marque aide beaucoup à servir cette facilité, cette rapidité.
Donc si je te comprends bien, pour toi, la marque est un moyen redoutable de réussir, finalement ?
Oui, c'est un moyen de communication, d'identification très facile et très rapide, comme nos prénoms aujourd'hui. Finalement, on s'appelle par nos prénoms. Le prénom d'une personne résume ce qu'elle est, mais pas seulement. C'est aussi, donc, c'est très physique, son caractère. Mais quand on connaît cette personne, on la résume par son prénom. Donc, ouais. Quand on connaît une entreprise, on la résume par sa marque.
Alors, il est d'usage souvent de dire qu'une marque, on peut la résumer par son nom, parce qu'une fois qu'on a dit Goobar, ben, on a tout compris. Théoriquement, dans l'idéal, en tout cas, on voudrait avoir que tout le monde ait tout compris. Oui. Et pourtant, ça contient plusieurs composants, cette marque. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Alors, on a parlé de graphisme, on a parlé de son, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut intégrer d'autre dans cet univers de marque ?
On avait fait tout un travail à ma demande quand j'ai repris l'entreprise de redéfinir la plateforme de marque de Goobar. Donc, la plateforme de marque, c'était pas uniquement justement le nom de la marque. Le nom Goobar, on le connaît. La couleur verte Goobar, tout le monde la connaît. Mais on repart de ces éléments-là historiques. Et qu'est-ce qu'on veut écrire? Qu'est-ce qu'on veut partager comme valeur autour de ce nom, de cette couleur, de ces savoir-faire? On a vraiment écrit cette plateforme de marque par rapport à l'histoire et au contexte actuel et aussi au futur. Donc aujourd'hui, on est sur une grosse urgence climatique avec du tri des déchets, des exigences normatives. Comment Goobar peut s'inscrire par ses produits dans ce nouveau contexte qui n'existait pas il y a 85 ans. Donc on a nos bennes de tri des déchets, on a des politiques de standardisation, et c'est ce travail sur cette plateforme de marque qui donne ensuite un nouveau souffle à la stratégie d'entreprise derrière. Donc derrière, je vais décliner cette stratégie auprès du bureau d'études, auprès de la fabrication, comment on peut rendre nos produits plus économes aussi en termes de fabrication. On a mis en place des panneaux solaires sur le toit, et tout ça, finalement, c'est cette stratégie vient de la marque et de ce que Goobar veut incarner.
Découle de la marque, même si.
C'est ça.
Tout provient de la marque. Et est-ce que... alors, on se projette aussi, il y a certains auditeurs peut-être qui sont en train de créer des marques, créer des entreprises. Et dans cette optique-là, moi, je serais curieux de connaître ton avis, de savoir est-ce qu'il faut chercher, par exemple, à copier des marques qui ont réussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui se duplique, qui se copie ou est-ce que plutôt, au contraire, il faut chercher à se dégager, à se singulariser, selon toi ?
Tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Quand on crée une marque, on crée une entreprise, on crée une marque, on crée une proposition de valeur qui doit être unique. Je prends un exemple de fabrication de chaussures dans le textile, par exemple. On peut très bien fabriquer une chaussure en grande série à l'autre bout du monde, fabriquer une chaussure artisanale dans son coin de son côté. Finalement, l'idée de l'entreprise reste la même, le produit reste la même, mais la manière d'y arriver, la proposition de valeur va être totalement différente. Et ensuite, avec sa marque, on va essayer d'incarner et d'expliquer rapidement et facilement à nos prospects quelle est cette proposition de valeur. Je vends du dropshipping ou je vends un produit artisanal, made in France, éco-responsable, biosourcé. Et tout ça, la marque va le porter ou va parfois cacher certains aspects, de mettre sous silence, et ça c'est un petit peu les travers à mon sens du marketing, va mettre sous silence certains aspects où c'est un produit qui est très beau, très joli et qui ressemble à du made in France, mais finalement ça a été fabriqué par des Ouïghours à l'autre bout du monde. Là c'est un petit peu les travers du marketing qu'on peut parfois retrouver.
Ok. D'où provient cette... est-ce que tu es conscient, en tant que dirigeante, à cette particularité d'être hyper attaché à la marque, que ce n'est pas forcément quelque chose de répandu dans les dirigeants, surtout dans l'industrie, j'ai envie de dire?
C'est peu répandu dans l'industrie, malheureusement. J'aimerais que ce soit plus répandu dans l'industrie que cela, aujourd'hui, parce que l'aspect marketing grand public, comme on peut l'entendre, n'est pas incompatible avec les produits industriel,
souvent B2B d'ailleurs.
Souvent B2B, parce que on a tendance à dissocier le B2B du B2C, ce qui est un petit peu dommage à mon sens, parce que derrière le B2B, il y a des personnes. Les acheteurs sont des personnes, comme toi, comme moi, qui ont leurs envies, leurs convictions, et qui aiment ce discours de marque, qu'il soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, on a certains clients chez Goubar qui sont de véritables ambassadeurs de notre marque, qui vont eux-mêmes conseiller Goubar auprès de leurs amis, alors qu'ils ne sont pas forcément des prospects Goubar, mais les amis de leurs amis sont potentiellement dans une entreprise qui a besoin d'une solution de manutention ergonomique que Goubar peut fournir. Alors, Goubar n'est pas encore sur Instagram ou TikTok, peut-être que ça viendra, on n'est pas encore sur ce type de plateforme, mais aujourd'hui, ça me semble important que des entreprises industrielles montrent ce dynamisme au même titre que, encore une fois, que de l'industrie textile qui sera beaucoup plus B2C.
Ouais, j'entends cette particularité qui provient vraiment de l'échange qu'il y a entre les personnes, parce que j'ai l'impression que tu te projettes pas comme une entreprise Goubar qui va vendre à une autre entreprise, mais plutôt probablement un ambassadeur Goubar qui va vendre à un acheteur de notre entreprise qui aura probablement un besoin. Oui, oui, à titre personnel aussi.
Alors là où la stratégie Goubar a un petit peu évolué, c'est qu'au-delà, on va un petit peu plus loin que de la simple vente entre guillemets à nos clients. Ce qu'on cherche aujourd'hui, Goubar, sa signature de marque, c'est faciliter vos manutentions. On est dans cette idée de facilitation des manutentions, et donc on s'adresse pour ça à l'utilisateur final de nos produits. Qu'il soit salarié d'une entreprise ou un acheteur, là, acheter notre produit par le biais d'un autre revendeur qui lui-même a acheter ça sur une plateforme, quelque part les circuits de vente sont toujours importants, mais on va essayer de toucher vraiment cet utilisateur final, parce qu'on a dans notre identité de marque cette idée de sur-mesure, de réponse à 100% du besoin du client, et ça c'est fortement lié aussi à mon histoire. Je suis moi-même passionné d'innovation, du UX design que l'on voit beaucoup dans la tech, que l'on voit peu là aussi dans nos industries, mais qui peut aussi servir l'industrie française sans aucun problème. Et c'est également, à mon sens, l'une des portes de sortie par le haut de l'industrie française. On veut réindustrialiser la France. On ne sera jamais aussi compétitif par notre taux horaire que des produits d'import, ça c'est clair. Par contre, en termes d'innovation, tant sur le plan technique que sur le plan marketing, on a beaucoup de choses à faire et on a un boulevard devant nous.
Ouais, c'est très intéressant et c'est hyper optimiste. Ça fait du bien, quoi, à entendre ces paroles-là. Alors justement, on a parlé de Goubar. Peut-être aussi, d'ailleurs, on peut parler de Goubar. Mais comment t'arrives à évaluer ou quand tu vois une marque, par exemple, dans l'industrie, quels sont les critères pour te dire ah tiens, c'est une bonne marque ça, ou alors te dire plutôt de ton côté ce qu'on fait avec Goubar, ça y est, on obtient les résultats. Comment t'arrives à l'évaluer ça?
C'est compliqué d'évaluer une marque. À mon sens, c'est une notion très, très subjective. Une marque porte des valeurs et moi, je vais m'attacher lorsque je choisis une marque, à trouver une marque qui est en adéquation justement avec ses valeurs. De la même manière, quand Goubert va essayer de sélectionner des fournisseurs, on va sélectionner des fournisseurs, on a l'habitude de dire en ingénierie sur la qualité, le coût, le délai. Moi, je rajoute aussi l'adéquation des valeurs par rapport à celles de l'entreprise. On est en train de travailler sur une labellisation EcoVadis qui est justement ce nouveau marqueur des entreprises au sens large.
Dans l'industrie ?
Alors, pas que dans l'industrie, d'accord. C'est vraiment un label qui touche vraiment la distribution, l'industrie manufacturière, tout type d'entreprise, et qui évalue d'un point de vue RSE les entreprises. Donc, de plus en plus, on aboutit sur cette notion un petit peu aussi de triple comptabilité, qu'elle soit donc économique, sociale, mais aussi environnementale. Ça fait partie aujourd'hui d'un nouveau critère de choix pour les différents partenaires. Et ce choix-là est aussi fait et est porté par la marque des entreprises et doit transparaître dans la marque des entreprises partenaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler.
Donc, si je te suis bien, ça veut dire aussi que pour évaluer une marque, il faut la connaître finalement.
Oui. Il faut la connaître. Donc, ça demande aussi un travail un petit peu plus poussé de sourcing par les personnes au service achat. Il y a aussi la notion d'adhésion à des groupements d'achat un petit peu plus verts ou des groupes aussi de travail ou d'entreprises comme l'ADEC qui existe ici sur la région du Maine-et-Loire. C'est beaucoup de réseaux qui aident justement à mieux connaître les marques sur cet aspect-là environnemental. Alors, c'est l'un des nombreux aspects, on va dire, des critères d'évaluation des marques.
Mais celui-ci est factuel, c'est ça ?
Celui-ci est factuel et très actuel. Et c'est vrai que c'est un nouveau critère de sélection des fournisseurs que beaucoup ne connaissaient pas avant. Et si Goubert travaille ce sujet-là aujourd'hui, c'est pour ne pas être en retard et louper le train, justement, de cette labellisation qui est de plus en plus nécessaire pour nos clients.
Donc là ça tombe sous le sens, c'est qu'au final, il y a une vraie exigence et puis, comment dire, une conséquence sur la rentabilité même de l'entreprise, finalement.
Oui.
Ça va être lié aux appels d'offres, je suppose.
C'est ça, c'est lié aux appels d'offres et encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui n'était pas connu il y a encore quelques années. Avant Covid, la crise écologique était là. Par contre, on en parlait beaucoup moins, c'était beaucoup moins impactant, du moins pour les entreprises, d'un point de vue clientèle. Maintenant que ces labels existent, qu'ils sont demandés et qu'ils sont à mettre en place, ça demande beaucoup d'agilité aux industriels vis-à-vis de leur marque pour faire un petit peu ce twist. Un bel exemple d'ailleurs, c'est qui marche plus ou moins bien, mais c'est le twist qu'essaie de faire Total. Total, grand nom du pétrole, qui aujourd'hui ne s'appelle pas que Total, mais Total Energy, avec un beau logo arc-en-ciel pour bien montrer que Total ne fait pas que du pétrole et s'oriente vers les énergies renouvelables. Et ça, je comprends tout à fait la difficulté de Total. Moi-même, j'ai repris une société qui a 85 ans d'histoire, qui a une forte inertie dans ses process, et réorienter une stratégie marketing et une stratégie de marque, donc modifier finalement l'inconscient de chaque personne, utilisateur, client, sur la vision d'une marque, c'est pas facile et ça prend du temps.
Alors, il y en a qui l'ont fait dans le domaine de l'énergie, c'est Gaz de France qui est devenu Engie, par exemple.
Oui.
Ils ont été jusqu'à changer le nom.
C'est ça. Quand un nom devient trop lourd à porter, on a parfois tendance à le changer. Je ne changerai pas le nom de Goubert, même si c'est pas mon nom de famille. Goubert, c'était le nom de famille du dirigeant historique qui fabriquait des charrettes agricoles en bois, donc on voit qu'on a quand même fait du chemin depuis avec cette belle marque, mais elle porte un historique, des valeurs, du savoir-faire français, local, un vrai ancrage territorial et environnemental que l'on doit garder.
Alors, on connaît dans les différentes formes d'expression de la marque, on connaît bien sûr le logo. Dans le cadre de Goubert, on sait qu'il y a la couleur, cette couleur verte qui est très forte et qui est vraiment même un emblème de la marque. Si on a une benne Goubert, on a une benne verte. Si la benne est verte, c'est une benne Goubert.
Alors là, je vais faire deux précisions. Si on a une benne Goubert, elle peut être de plein de couleurs différentes parce qu'on agit beaucoup pour le tri des déchets. Donc, comme on a à la maison les poubelles vertes, poubelles jaunes, poubelles bleues, on peut avoir la même chose chez Goubert. Mais effectivement, la couleur par défaut, c'est ce vert un petit peu flashy qui existe depuis des années chez Goubert. L'inverse aussi n'est pas tout à fait vrai, où on a une position de leader aujourd'hui et très, très reconnue dans le monde de la benne et du tri des déchets. Et ça suscite aussi des envies de copies, et notamment de copies jusqu'à cette couleur verte très caractéristique que l'on peut retrouver maintenant au catalogue de certains concurrents, malheureusement.
Et comment on se protège de ça? Parce que vu que cette couleur-là fait partie de l'univers de marque, de la plateforme de marque Goubar, oui. Comment on peut se protéger juridiquement de ce genre de choses, par exemple?
Non, la marque, on la protège à l'INPI. La marque, le logo, tout ça est bien cadré auprès de l'INPI, et c'est ce qu'a fait Goubar pour protéger vraiment la marque Goubar. La couleur peut aussi être protégée, ça il faut le savoir. Malheureusement, on s'y est pris un petit peu trop tard pour la protéger, ça c'était les retours de l'INPI, et ensuite nos modèles peuvent être protégés. Dans l'industrie, on a aussi assez facilement la possibilité de déposer des brevets, les brevets d'invention qui sont très importants. Goubar en a quelques-uns. Maintenant, avec des produits qui existent depuis plus de 30 ans, les brevets sont tombés dans le domaine public, et là on a tendance à se faire copier assez facilement. Pour moi, la meilleure protection pour une industrie sur des produits comme les nôtres, c'est d'être toujours en avance sur les concurrents, donc d'avoir une vraie politique d'innovation, de développement produit, mais développement aussi de services autour de nos produits, pour montrer qu'on est leader par nos produits, mais par aussi toute la démarche que l'on a derrière, et que nos produits, même s'ils sont évidemment forcément copiés, la copie sera toujours inférieure à l'original.
Ouais, d'accord. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on... ok, si vous voulez, on peut copier la couleur Goubar, mais vous copierez pas la marque, parce que la marque, elle contient tellement de facettes qu'au final,
c'est ça, exactement. On parle beaucoup depuis le début du podcast des produits Goubar, des bennes. Oui, effectivement, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Mais on a aujourd'hui des services autour du produit à 360 degrés tout au long du cycle de vie du produit. Ça aussi, c'est une démarche qui a été initiée suite à l'évolution de la marque Goubar. Et donc, tout au long du cycle de vie du produit, on peut faire évoluer le produit Goubar par l'entreprise Goubar, changer les dimensions du produit, on peut le réparer, on peut commander des pièces détachées. Et tout ça, c'est des services associés qui sont portés par la marque Goubar. Et quand j'achète un produit Goubar, je rentre finalement dans l'univers Goubar, un petit peu sans prétention. Quand j'achète un Lego, je rentre dans l'univers Lego et je peux acheter d'autres briques et créer des choses différentes.
Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise peut-être qui écoutent ce podcast et qui se disent pourquoi ou quel est l'intérêt d'uniformiser, d'avoir sa marque partout, qu'elle soit présente sur l'ensemble des supports, que ce soit toujours, c'est à peine le cas, tu l'as dit tout à l'heure, mais la même couleur, la même typo, la même manière de s'exprimer, la même promesse, la même couleur sur les camions.
C'est une manière finalement de rappeler que la marque est ici. C'est un petit peu ce qu'ont fait les marques de vêtements pendant un temps, où il y avait les gros logos Adidas, les gros logos Nike en gros sur les vêtements, et qu'il y a encore effectivement. C'est vraiment ce sentiment d'appartenance que les personnes avaient en portant cette marque et en montrant, regardez, je suis fier de porter cette marque, c'est une marque qui correspond à mes valeurs. Et j'en suis très fier, donc je vous le montre. Pour la marque, ça permet justement de créer cette notion d'ambassadeur où mes clients sont mes premiers commerciaux, parce que eux sont mes missionnaires avec leur bâton de pèlerin pour aller voir la plèbe et dire « Regardez, c'est moi qui ai raison, c'est cette marque la meilleure. » Donc diffuser sur des réseaux sociaux réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, c'est très important, parce que ça crée justement cet effet relais. Regardez ce qu'a fait cette marque, regardez ce qu'a fait Goubar. Et Goubar, justement, à mon sens, est une marque vertueuse par rapport à mes valeurs. Leurs produits sont vraiment qualitatifs. Essayez-les et vous verrez, ce sera une réussite pour votre entreprise et pour la réponse à votre besoin sur ce que vous attendez. Et ça permet justement de communiquer de manière indirecte sur sa marque, ses valeurs de marque. Donc certains diront, oui, mais c'est du matraquage, un peu du matraquage médiatique comme on pourrait avoir les pubs un peu insidieuses à la télé ou de manière plus moderne sur YouTube. Et oui, ça l'est un petit peu foncièrement. Mais d'un point de vue, encore une fois, de la marque, c'est un moyen très facile de diffuser la marque et ses valeurs au plus grand nombre.
Et puis ça permet aussi, tout dépend en fait, on va dire quelque part, du pourquoi au départ, de la raison d'être. Ça veut dire que si on le fait avec des bonnes intentions, vouloir inspirer les gens, C'est quelque chose de tout à fait responsable, tout à fait. Au final.
Tout à fait. Une communication que l'on a faite sur LinkedIn, c'est sur la participation. C'est un petit peu des communications aussi, pas forcément sur le produit, mais sur la vie de l'entreprise que l'on fait, sur qu'est-ce qu'on a fait qui est en accord avec nos valeurs. Avec l'entreprise, on a fait différentes choses et on a publié sur l'installation de panneaux solaires sur notre toit qui permet d'économiser 30% de notre consommation électrique annuelle. Voilà, on a fait un post sur LinkedIn qui a été très apprécié, qui a été relayé. Waouh, regardez, Goubard, ils font justement de la production d'électricité sur leur toit. C'est plutôt intéressant. Et bon, finalement, Goubard, j'ai même eu cette réflexion-là d'un client. Ah ben, vous avez des postes à souder solaires maintenant dans votre atelier. et techniquement, oui.
techniquement, oui. Non, c'est vrai en plus.
Ben, on a les panneaux solaires justement générant l'électricité pour notre atelier. Les postes à souder étant branchés sur le réseau électrique de l'atelier, indirectement des postes à souder solaires aujourd'hui dans l'atelier. Donc ça fait parler, mais c'est plutôt des discussions positives. Après, attention effectivement à être toujours juste et vrai dans ce que l'on propose, pas trop tomber dans le greenwashing, le greenwashing justement, je vais y arriver, ou sur des communications un peu bullshit. Je parlais tout à l'heure de celui qui va vendre des chaussures vertueuses avec une marque, avec le mot de la ville de Paris dans le nom pour faire une marque très française alors que c'est fabriqué à l'autre bout du monde et que ça vient en conteneur complet et que ça pollue énormément. Voilà, attention au retour de bâton quand ça peut se savoir et où là ça peut très vite avoir l'effet inverse.
Tu connais le bouquin No Logo ?
Non, je le connais pas.
C'était fin des années 80. En fait, je commence à vieillir, je pense.
Alors, fin des années 80, attention.
90, fin des années 90.
Ah, d'accord.
Je sais que tu es un expert des années 80.
J'ai connu les années 90. Les années 80, malheureusement, c'est un petit
c'est
peu
un
moins.
Bouquin de Naomi Klein. Donc, moi, je dois avoir 20 ans dans l'étudiant. Donc, c'était un bouquin assez altermondialiste, je pense, franchement. Et qui critiquait ouvertement ces grandes marques, justement, on en parlait tout à l'heure, qui mettent leur marque en gros sur les casquettes et sur les t-shirts. Le produit en lui-même n'a pas de valeur, mais il a de la valeur parce qu'on met la marque dessus. Le bouquin, en fait, il explique que ces marques-là créent de la richesse au niveau de la marque pour pouvoir cacher ce qui se passe derrière. Tu vois ? Oui. Et est-ce que, d'après toi, une entreprise avec un fort et sincère engagement RSE pourrait se passer complètement de marque ? Ou alors même, la question inverse, c'est plutôt ça, c'est de se dire, est-ce qu'on peut être foncièrement et sincèrement engagé sur une logique de responsabilité environnementale et sociale et continuer à développer des marques ou à développer une marque.
Oui, finalement, je comprends ta question comme si on était, enfin, est-ce qu'on peut se passer finalement de la marque en étant totalement vertueux et finalement faire un petit peu de la no-marque en étant le plus vertueux possible. À mon sens, non, dans le sens où ce serait dommage de ne pas montrer que cette marque est vertueuse. La marque, encore une fois, c'est un moyen d'identification, c'est un moyen de communication rapide et fort des valeurs que l'entreprise propose. Porter un t-shirt blanc, très simple, sans aucune marque vraiment apparente, rien du tout dessus. Quelqu'un me voit en t-shirt blanc, il me voit en t-shirt blanc. Il ne va pas se dire cette personne-là porte un super t-shirt écologique qui a été fait tisser à la main à Lyon. Non, ça va pas se voir. Il faut finalement que la marque soit visible pour que mon interlocuteur, pour que je communique justement cette fierté d'avoir ce t-shirt ou de participer au développement de cette marque. Ça me fait également penser à, on parle de l'habillement à mes salariés. On parle beaucoup du marketing là, d'un point de vue client extérieur, mais c'est aussi très important pour l'interne et pour ses salariés, vraiment d'avoir ce sentiment d'appartenance à une marque. À Noël, j'ai offert un pull à mes salariés avec marqué en gros Team Goubard derrière. Donc vraiment, voilà, c'est le pull de l'entreprise que je vous offre.
Et alors, comment ça a été accueilli ?
Ça a été très bien accueilli et aujourd'hui, il est porté par plus de 50% des personnes dans l'entreprise et pas uniquement dans l'atelier, on va dire, où il fait un petit peu plus froid que dans les bureaux. Ce matin encore, dans les bureaux, il y avait un bureau où il n'y avait que des personnes en pull Team Goubard qui se sentaient vraiment fiers de porter les couleurs de leur entreprise. Donc ça, c'est intéressant aussi, à mon sens, d'un point de vue marketing, parce que là, on a du marketing vraiment d'entreprise et comment on fait rayonner l'image de marque même en interne. On parlait des vêtements, voilà, ces personnes sont contentes de même aller dans la rue avec un pull marqué en gros Team Goubard, j'appartiens à cette équipe.
On parlait tout à l'heure de quels étaient les critères pour pouvoir évaluer la réussite d'une marque. Quand il y a plus de 50% de ses salariés qui portent fièrement la marque dans l'entreprise, mais aussi dans la rue, je pense que c'est un critère d'évaluation plutôt intéressant.
C'est plutôt flatteur, effectivement, quand certaines personnes, certains salariés, sur des événements qu'ils ont plutôt perso, je pense à une salariée qui avait son concours de basket qu'elle effectuait, elle venait avec son pull Team Goubard parce qu'elle était fière de dire qu'elle appartenait à cette entreprise et j'avais un petit peu sponsorisé son concours de basket. Donc elle disait, oui, c'est mon entreprise, j'appartiens à cette entreprise qui vous a aidé un petit peu à faire ce concours. C'est toujours réjouissant d'un point de vue chef d'entreprise de se dire que ses salariés ont pris pleinement conscience des valeurs que l'on souhaite véhiculer par notre marque et que pour ça, ils portent justement fièrement les couleurs de la marque de l'entreprise.
Très inspirant. J'ai une dernière question à te poser, Jérémy. On va se projeter maintenant dans l'avenir. D'accord ? Oui. Là, aujourd'hui, vous écoutez peut-être ce podcast en 2024. Mais imaginons, là, dans 5, 10 ans, est-ce que ce travail ou cette exigence de marque restera la même ? Est-ce que les moyens utilisés pour travailler cette marque resteront la même ? Selon toi, aujourd'hui ?
Selon moi, ils vont évoluer. Ils vont évoluer en fonction des différents médias qui vont évoluer finalement. Encore une fois, même si je travaillerai toujours en B2B, je vais quand même m'atteler à savoir ce qu'il se passe en B2C, comment les gens communiquent entre eux finalement, et comment je peux m'inscrire dans une communication entre justement le chariste qui utilise mon produit et son voisin qui va être lui-même chariste dans une autre entreprise. Comment ces deux personnes, dans 5 ou 10 ans, pourraient être amenées à parler entre eux du produit Goubard qu'ils utilisent. Si plus tard, on se dit c'est TikTok qui devient la norme et c'est plus YouTube, c'est plus LinkedIn, Goubard sera sur TikTok. Voilà, tout simplement.
Ok, donc ça nécessite un vrai travail de veille, finalement.
Oui, de veille. Alors, je suis un petit peu techno-addict, quand on parlait de voiture, justement, tout à l'heure. Et donc, j'aime bien me renseigner, justement, sur ces nouvelles technologies, un petit peu fanat d'innovation, mais sous toutes ses formes, un peu uniquement technologiques, purement, on va dire, métallurgiques. Voilà, vraiment sur toute forme d'innovation. Et c'est ici que j'essaie de trouver des bonnes idées pour mieux communiquer la marque Goubard. Une marque, de toute façon, à mon sens, est toujours en mouvement. Elle ne doit pas rester uniquement une marque historique et n'avoir que des valeurs historiques. C'est comme ça que des marques meurent, à mon sens. Une marque a son histoire, mais a aussi des personnes qui travaillent aujourd'hui pour cette marque. Et ce sont les personnes qui travaillent aujourd'hui pour cette marque qui la font évoluer et qui ne vont pas révolutionner la marque, mais qui vont la faire évoluer et l'adapter au monde d'aujourd'hui qui n'est pas celui d'il y a 85 ans quand Goubard a été créé.
Écoute, merci Jérémy. Marqueur, l'heure de la marque touche à sa fin, en tout cas cet épisode. Vous pouvez retrouver la marque Goubard sur Internet, sur les réseaux sociaux, on en a parlé.
Pas encore sur TikTok.
Pas encore sur TikTok, si vous avez bien écouté. Merci Jérémy, c'était super. Franchement, je suis super content
Anthony
de t'avoir eu
sur cet l'invitation.
Épisode.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le relayer. Ça nous aidera à faire connaître ce podcast, à faire connaître ce travail et puis à faire connaître aussi les travailleurs de la marque, les garants de la marque dont on avait la chance d'avoir Jérémy avec nous aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.